Radio Generation.
Et nulle part ailleurs.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 23h, le débatteur du samedi soir. Pour vous qui n'êtes pas sortis en boîte, qui êtes restés voir cette Ligue 1, vous pouvez nous écouter. On va parler de la Ligue 1, bien sûr. Cette soirée de Ligue 1, riche en émotions, les coups d'arrêt bordelais, lyonnais, Montpellier, qui n'en finit plus d'étonner, qui gagne à domicile contre Saint-Etienne, et le carton marseillais à Nancy. On va parler de tout. Bon, il y a des matchs sur lesquels on va pas revenir en détail, d'autres si. Voilà, donc ce soir il y a vraiment du lourd. Il y a vraiment du lourd pour parler de ça, de parler de la Ligue 1, de cette belle Ligue 1. Il y a Rémi, l'Auxerrois.
Salut à tous.
Il y a aussi Dark Rafale, le Sochalien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Dark Rafale. Il y a aussi Fabien.
Bonsoir à toutes.
Toutes, oui. On va dire ça. Salut.
Ouais, pourquoi pas,
on aimerait bien. Salut Hugo.
Bonsoir à tous, à toutes, à toi.
Salut Hugo. Et il y a aussi, bien sûr, Yac B, le Bordelais.
Ouais, salut.
Pas trop déçu.
Surtout Brandao a marqué, c'est pas la joie aujourd'hui.
Eh ben, il y a Brandao a marqué, mais aussi Mamadou Samassa a marqué pour le VAFC Valenciennes Football Club contre le Grenoble Foot 38 qui n'en finit plus. Ça fait 9 défaites, 0 victoire, 0 match nul, 9 défaites. Moins 15 de différence de but, c'est vraiment médiocre pour les Isérois. Donc je disais, Mamadou Samassa a marqué, ça fait 4 buts en 8 matchs pour le Tigre malien, la Panthère malienne, comme on le surnommait du côté du Vélodrome. Le prolifique buteur a une moyenne d'un but par tous les deux matchs, et c'est assez satisfaisant pour lui. Donc par rapport à Valenciennes, on n'a pas de Valenciennois, on n'a pas de Grenoblois. Mais de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, c'est Grenoble fidèle à eux-mêmes. Grenoble qui ne montre pas grand-chose. Valenciennes qui a pas eu trop de mal face à cette pâle équipe grenobloise, malgré un caractère de battant, malgré une équipe assez vaillante. Grenoble n'a fait qu'apparition par rapport à en face de cette butte de cette équipe valenciennoise. Donc les ch'tis, quelqu'un aurait entrevu le match, aurait eu des échos ici? Non, personne.
Ouais, apparemment.
Personne. Oui.
Apparemment, Grenoble s'est assez bien défendu en début de match. Ils ont été assez incisifs, mais bon. Problème, c'est que ils sont tellement faibles au milieu de terrain en attaque. Techniquement, par rapport au niveau général, c'est tellement limité que sur la longueur d'un match, ils sont incapables de résister. À ça, tu rajoutes des largesses défensives, pareil, qui sont pas au niveau de la Ligue 1. Voilà, ça passe pas, quoi. Vraiment, vraiment très inquiétant. Faudra qu'il y ait 4 divers. Et encore, ils risquent de battre le record du plus faible, donc 2 points.
Oui, ils sont bien partis pour.
Léger.
Oui, Fabien.
Non, mais moi, je voulais juste dire un petit mot sur Grenoble. Parce que quand tu dis, je crois que c'était Yac qui parlait que, ouais, ils risquent de battre le record du nombre le plus faible de points inscrits. Déjà, là, ils battent le record du plus grand nombre de défaites enchaînées, en tout cas en début de saison. Et maintenant, la question, c'est un peu de savoir quand est-ce qu'ils vont réussir à avoir ces premiers points, et surtout, que font les dirigeants grenoblois. Enfin, moi, je comprends pas qu'ils essayent pas d'instaurer une nouvelle dynamique. Bon, ok, Mecha Bazarevic, il continue, mais qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de changer et d'inverser justement cette dynamique? Parce que là, on a l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent. Parce que t'as dit qu'ils ont bien géré le début de match. Match, c'est 16e et 24e, les deux buts de Valenciennois. Donc bon, on se dit quand même que Grenoble foire bien ses débuts de match. C'est toujours la même chose qui se répète, les mêmes scénarios. Donc moi, j'ai l'impression qu'à Grenoble, on fait tout pour s'enfoncer, quoi. Mais on fait rien pour se relever.
Je laisserai Yac répondre si tu as quelque chose à ajouter.
Je vois pas trop comment ils pourraient s'en sortir, quoi, parce que au niveau des joueurs, bon, leur effectif est limité, ils peuvent pas trop tourner à 12-13 joueurs. Je sais pas, peut-être que dans la tête, s'ils arrivent à avoir un choc psychologique, ça peut passer ou quelque chose, mais franchement, je vois pas par quel moyen ils pourraient s'en sortir, quoi. Ils ont tellement
de retard. Justement, le choc psychologique, ça serait peut-être... Enfin, moi, je sais pas. Après, c'est sûr, c'est des méthodes plus ou moins radicales, mais bon, ça se fait un peu partout. C'est le changement peut-être d'entraîneur. Après, j'ai l'impression que les dirigeants, ils ont peur de prendre des décisions, mais le problème, c'est que dans des situations comme celle-là, ben, il faut en prendre des décisions. Et puis, moi, je pense un peu à Lou Boya, parce que quand même, Lou Boya, enfin, moi, je trouve qu'il fait des matchs plutôt intéressants, ou des good matchs. Bon, maintenant, il est quand même titulaire à Grenoble. Et je me dis, ce mec-là, il doit se demander à l'heure actuelle où il a atterri, quoi. Parce qu'il revenait en France, je pense qu'il était content de revenir en France. Et là, il se tape le club qui est bon dernier de la Ligue 1, qui va certainement redescendre en Ligue 2. C'est un peu dommage pour lui, quoi.
Et à noter une petite statistique pour souligner le bon début de saison valenciennois, notamment cette équipe valenciennoise qui pratique un football assez offensif et ça se voit. Ça fait déjà 17 buts marqués par les Valenciennois. On les attendait pas à pareille fête cette saison, ça c'est sûr.
Dont 5 contre Sochaux, donc ça fait 12 buts en 8 journées, tout de suite ça fait moins attrayant, mais c'est vrai que c'est pas mal offensivement.
Oui.
Avec un petit Samassa, comme vous l'avez dit, assez surprenant, mais comme quoi, les critiques, enfin, on s'est bien foutu de sa gueule quand il joue à Marseille. Après, je veux pas faire celui qui donne des leçons, mais voilà, quoi, il a pas non plus zéro talent, zéro potentiel, quoi.
Tu remarqueras que je me sens pas du tout visé, parce que jamais je vais critiquer ce genre. Mais pour jouer à Marseille, c'est clair que je sais pas s'il a vraiment la carrure d'un joueur qui peut s'imposer à l'OM, mais c'est pas un mec nul à chier. On l'a vraiment cantonné au rôle de sous-merde à l'Olympique de Marseille. Le public l'a pris en grippe dès le début. Mais bon, après, moi j'ai rien contre ce garçon. Il est sympathique, il se prend pas la tête. Et là, il marque 4 buts en 8 journées. Il y a rien à dire, quoi.
Ah, mais faut pas oublier aussi... Ouais, excuse-moi.
Vas-y, justement.
Il a voulu trop passer un niveau direct, le mec, il était même pas titulaire au Mans, puis là, il part tout de suite à Marseille, comme ça, il a sauté une étape, et puis voilà, il a perdu une année pour rien. Alors, on va tout de suite dans une équipe qui joue mieux, à son niveau, il exploite un peu mieux son talent, ça va mieux. Enfin, même s'il a raté un penalty ce soir.
C'est clair quand tu dis qu'il est quand même passé du Mans remplaçant même pas titulaire indiscutablement à un poste de remplaçant de joker à l'Olympique de Marseille, il est beaucoup rentré en jeu, donc fallait pas s'attendre à des miracles, surtout que à la base il y a beaucoup de mauvaises langues qui ont dit ouais, il est venu pour remplacer Djibril Cissé, mais non, pas du tout. Même si Cissé restait, ça serait venu. Le Cissé n'a jamais été remplacé à l'OM et ça s'est vu par la suite de la saison. Brandao est obligé de venir, mais Samassa, il est à la base, il est venu comme sous remplaçant du remplaçant. Donc, c'est pour ça qu'il fallait être indulgent avec lui et là il trouve un club pour lui. Et voilà. Vas-y Arnaud.
Je voulais intervenir en guest là, sans que tu m'amènes. Ah, je suis déçu là, parce que je sens direct le Dimat qui est en train de monter là, et je vais faire péter les stats, donc je vais pas rester très longtemps. Je voulais juste ajouter quelque chose sur l'équipe de Grenoble. Donc vous avez dit 2-3 mots sur les Valenciennois ce soir. Juste un petit mot sur Grenoble, parce que je regardais la feuille de match et je m'apercevais quand même que vous avez un milieu de terrain assez correct pour la Ligue 1. Vous avez des joueurs comme Laurent Batles qui, après son passage à Marseille, qui en avait convaincu plus d'un, avait été à Toulouse et qui s'était montré comme très très bon remplaçant à Toulouse. Je pensais que c'était un joueur qui vieillissait bien. Je ne suis pas assez Grenoble pour vous dire s'il fait toujours des performances correctes comme il les faisait à Toulouse. Vous avez un mec comme Nicolas Dieuze qui, même si il a frotté avec des club plus ou moins bon, ça reste quand même un mec au numéro 6 qui a un niveau de Ligue 1, il a une très bonne expérience, donc il peut, lui et Batles, ça fait justement une bonne vingtaine d'années de Ligue 1 à E2. Vous avez un mec comme Daisuke Matsui sur le côté qui est normalement, enfin, on nous l'annonçait comme ça, un super joueur techniquement parlant. Bon, il a pas percé à Saint-Étienne, mais bon, je lui en voulais pas compte tenu de ce qui, de tout ce que Saint-Étienne a pu traverser la saison précédente. Là, ce soir, c'était Laurent Courtois. D'habitude, c'est Sofiane Feghouli. Lui, qu'on annonce comme un des plus grands espoirs français au niveau footballistique. Donc, pour moi, le milieu de terrain, je vois pas en quoi ça peut être un problème pour les Grenoblois. Pareil pour l'attaque, vous avez un duo Nassim Akrour, Nassim Akrour qui a toujours été un joueur que j'appréciais parce qu'il est assez intelligent et même à 36 ans il me semble, Nassim Akrour, ça doit être un des doyens, ou 35 ans, je sais plus. Il arrive toujours à marquer, je vous rappelle l'année dernière il a mis un but contre le PSG à 25 mètres, une superbe frappe. Il a Louboya avec lui que Fabien a très bien décrit tout à l'heure, mais ce qui pêche totalement c'est la défense et ça c'est ce que je voudrais dire. Le Chrome encore ce soir a fait un bon match, j'ai regardé les différents commentaires, les supporters se disent satisfaits de le Chrome, mais c'est vraiment la défense, là ce soir c'était main froid Romao, César et Sogé. Sogé qui s'était pas imposé l'année dernière à Saint-Étienne, qui était venu de Nancy il me semble, Jimmy Mainfroy qui avait jamais vraiment convaincu même en Ligue 2 à Grenoble, Romao César apparemment... GG, je sais pas, enfin Fabien, si tu voulais en dire deux mots, mais apparemment toi t'es dépité par ce duo-là, Romao et César.
Non, ah bah apparemment Fabien n'a pas grand-chose à dire sur le duo défensif, mais tu t'es trompé. Romao c'est le relayeur, tu voulais sans doute dire Payot César.
Non, ce soir c'était Romao qui était en défense centrale.
Il y
a Sandy Payot également, mais ce soir il me semble qu'il était suspendu.
Autant pour moi.
Mais non, je voulais bien dire Romao aussi parce que Romao, je l'avais vu évoluer il y a 2 ans en Ligue 2, il me semble. Oui, c'était ça. Et même là, je me rappelle, il avait eu du mal. Le dernier match où Grenoble devait assurer sa montée, le dernier match de Grenoble, il avait été remplacé au bout de 35 minutes de jeu. Donc, je garde toujours un mauvais souvenir de ce gars-là qui me fait penser avec son nom en AO à la longue liste des joueurs. Perdu en Ligue 1 comme Douglao et Brandao, enfin. Donc voilà.
On va y revenir.
Voilà. Donc je trouvais que c'était bon à souligner quand même que, enfin, c'était vraiment cette ligne-là qui faisait défaut totalement à Grenoble, même si je suppose que le milieu de terrain et l'attaque ne doivent pas non plus être d'un rendement exceptionnel pour pas pouvoir combler ces lacunes-là. Voilà, Roméo.
Ah bah merci pour ce petit passage, petit. Tout est relatif sur Grenoble. Et on va pouvoir passer au second match.
Tu vois que tout est possible, hein. On peut même faire 5 minutes sur Grenoble.
Et ouais, comme c'est vrai. Impossible is nothing. Alors, avec mon très bel accent anglais, on va tout de suite passer au deuxième match qui nous intéresse. On déroule la file de matchs de cette soirée. Le Mans Boulogne-sur-Mer, les Manceaux qui recevaient à Léon Bollet, les Boulonnais, les Ch'tis, un partout, alors que Le Mans dominait pourtant assez, pas nettement, mais maîtrisait ce match, 1-0, grâce à un but de la MAM, mais à force de reculer, à force de subir les contre-attaques boulonnaises, et vu que l'équipe boulonnaise s'est rebellée en toute fin de match, bah ça finit par rentrer, Fabien Robert a égalisé dans les tout derniers instants. Donc pas grand chose à dire, c'est deux équipes qui ont du mal, surtout Le Mans cette année qui a énormément de mal, toujours dans la zone rouge il me semble. Boulogne un peu mieux placé au classement, qui est toujours aussi surprenant. On les attendait pas à pareille fête, aussi haut dans le classement, à l'instar de leur copains promus Montpellier, hein, qui sont aussi en train de faire une belle petite première partie de saison. Donc rien à dire sur ce match, si ce n'est que Ovono il s'est blessé pendant le match, il me semble. Voilà, sinon rien d'autre à signaler, à part que Boulogne-sur-Mer arborait un autre sponsor maillot, qui est la marque Dia. Voilà, je suppose que vous devez connaître. Et oui, Fab.
Ouais, non, mais juste pour souligner que ça, c'est l'air de rien, c'est quand même un bon point de prix par Boulogne en déplacement, toujours en l'absence de son capitaine Grégory Thiel. Donc voilà, c'est des points importants qu'il faut prendre. Il l'arrache ce soir au Mans, et donc voilà, on pensait que Boulogne allait jouer les dernières places cette saison, et puis finalement là au fil des matchs, avec des petits points pris par-ci par-là en déplacement, ça c'est le parcours type d'une équipe qui peut se maintenir en tout cas en fin de saison. Donc
j'y mettrai quand même une petite réserve sur ce que tu dis, c'est à ce que Boulogne, même s'ils ont 9 points et qu'on s'aperçoit vraiment que les premiers en Ligue 1 n'avancent vraiment pas vite, puisque le premier qui est Lyon a 20 points, donc à peu près le double on va dire, pour ceux qui sont maths sup, maths spé, ils me diront non, il y a 2 points d'écart, bref. Et en l'occurrence, Boulogne avec 9 points sont quand même 15e à un petit point du 18e qui lance, qui joue demain contre Monaco et Nice. Bon, à Grenoble on n'en parle pas parce que bref. Donc je sais pas si Boulogne peut se rassurer d'un début de saison entre la 12e place et la 19e, vous avez 3 points d'écart exactement.
C'est très serré en fin de tableau.
Ouais.
Il y a une marge de différence entre Grenoble et les autres, mais après c'est très serré. Il y a 4 équipes à 8 points, il y en a après Boulogne à 9, il y a 2 équipes à 10, Lille et Saint-Étienne, il y a même Nancy à 11. Comme tu dis, c'est en 3 points, il y a 7 équipes.
Non mais ça juste je mettrai là en avant et je me retirerai sur ces belles paroles le manque cruel quand même d'efficacité des grandes équipes. On disait qu'on commençait à retrouver un championnat avec 4 moteurs devant, et en l'occurrence on les voit pas trop, hein. Moi qui compare souvent avec l'Italie, en Italie vous êtes à 7 ou 8 journées, ça dépend, vous avez déjà 19-20 points pour les premiers. En France on est déjà à 9 journées et on est également à 20 points, sauf que vous voyez que la fin de tableau est extrêmement serrée, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas encore affirmer que c'est un championnat avec les 4 gros Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux devant, surtout Lyon, Marseille, Bordeaux, parce que on voit qu'on n'arrive pas à se détacher. Ce soir on va en reparler avec Yac, on va en reparler avec toi Roméo, on va en reparler avec Dark pour Lyon, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on retrouve quand même les tenants et les aboutissants d'un grand championnat en Ligue 1, même si j'étais confiant au début de saison, je me disais qu'on va vraiment avoir une belle bataille, et finalement j'ai peur qu'on commence à retomber dans les espèces de petits défauts de la Ligue 1 qui montrent qu'elle a pas quand même de grands cadors, et ça rassure pas pour la Ligue des Champions.
Pour en revenir au classement aussi, c'est clair que de toute façon ça va faire comme l'an dernier, il y aura 10 équipes qui vont jouer le maintien. Là faut voir aussi, ça fait 2 journées qu'il y a des surprises à tout va là. Aujourd'hui il y a Sochaux qui fait tomber Lyon, il y a Auxerre qui fait tomber Bordeaux. La semaine dernière c'était pareil, il y avait Rennes qui se faisait battre par Auxerre et tout. Si ça continue comme ça, c'est tout le championnat qui va changer, mais je m'inquiète pas pour autant. Pour moi c'est Lyon, Marseille et puis Bordeaux, ils ont une classe d'écart avec les autres. Ça c'est indéniable. Autant quantitativement que quantitativement, au bout d'un moment ça va faire la différence.
D'accord, voilà, merci, mais on s'égarait un peu là, on va tout de suite revenir. On a fini pour le Mans Boulogne, en même temps on va pas faire un quart d'heure dessus, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors je le rappelle, donc Boulogne 15e avec 9 points. On l'a dit, Boulogne avec 9 points, 15e au classement, et Le Mans avec un point en moins, 17e juste au-dessus de Lens et Nice qui ont un match en moins. Donc on va tout de suite passer au match de Montpellier. Montpellier qui recevait à domicile Saint-Étienne. Victoire 2-1 des Montpellierains. Après un but d'Aitfana, un but de Camara, c'est Bergessio sur pénalty, encore une fois Bergessio qui a réduit la marque de 1 pour Montpellier à domicile. Montpellier qui continue son petit bonhomme de chemin, et Montpellier qui pointe ce soir après 9 journées devant Bordeaux avec un point d'avance sur les Bordelais, 20 points à égalité de points avec Lyon, seulement une différence de but de -1 par rapport aux Lyonnais. Donc vraiment superbe début de saison des Montpelliérains, qui ont donc gagné 2-1 ce soir contre Saint-Étienne. J'ai vu beaucoup de Stéphanois sur le forum se déclarer indignés par l'arbitrage. J'ai même pas vu le match, je pourrais pas vraiment me prononcer par rapport à ça. Ce qui est sûr, quand on voit on lit un peu ce qui s'est passé à droite à gauche, on écoute un peu les réactions des supporters par rapport à ce match, Montpellier a mérité cette victoire. malgré donc une première mi-temps assez ennuyeuse selon les échos que j'ai eu, il a fallu donc ce but d'Aït Fana, Karim Aït Fana, pour relancer un peu ce match, et donc Montpellier qui continue. Quelques réactions, je suppose que vous êtes tous un peu choqués par rapport à choqués ou étonnés, à moins que quelqu'un ici s'y attendait à cet excellent début de saison Montpellier, hein, ça m'étonnerait. Alors, aucune réaction, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses de ces belles prestations montpellieraines?
Est-ce que je peux réellement pousser un coup de gueule sur Montpellier?
Ah mais vas-y, tout coup
de gueule. Parce que je trouve qu'on s'enflamme énormément avec cette équipe. J'entends sur différents médias l'éloge d'un coach et de ses joueurs, et même de Loulou Nicolin, etc. Mais comment on peut se réjouir? Et j'entendais en plus des supporters qui se disent satisfaits, qui me disaient, bon très bien, moi je les crois, qui disent qu'ils vont à la Mosson, etc. Et qui se disent satisfaits de ce qu'ils voyaient sur le terrain. C'est pitoyable ce qui va sur le terrain. C'est pitoyable. J'ai regardé deux fois Montpellier cette saison, deux fois où ils ont gagné, contre Lens et contre, c'était deux fois la Mosson. Ils gagnent soit sur un penalty accordé honteusement. Ce soir encore, il y a eu des erreurs d'arbitrage apparemment. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais Montpellier ne sait pas jouer. Ils ont leur bon petit mec là, leur numéro 8 là, Costa il me semble qu'il s'appelle là,
oui.
Qui est super bon sur les coups de pied arrêtés, qui amène toujours le danger. Je comprends pas je comprends pas déjà que en Ligue 1, t'es pas au moins dans chaque équipe un mec qui sache tirer aussi bien les coups francs et les corners que lui. Bref, on ne reviendra pas sur ce nain et sur ce nabo. Voilà, Montpellier, je comprends pas comment on peut s'extasier sur une telle équipe et comment on peut être fier qu'une équipe comme ça se retrouve avec 20 points pardon, et à la deuxième place. Moi je suis atterré par le niveau de jeu des Montpellierains. Après on va me dire oui, ils font avec ce qu'ils ont, mais pour moi, on ne peut vraiment pas se réjouir de ça. Aux premières places, ça veut dire qu'on a vraiment du retard en Ligue 1 si on prend un plan un peu plus général. Si on voit que des équipes comme ça sont deuxièmes, c'est qu'on a vraiment du souci à se faire en Ligue 1. Oui, Dark.
Bah écoute, moi je les ai vus jouer contre Sochaux. Bah, en vrai, c'est peut-être ce match-là que tu parlais, parce que pour le penalty, je vais reprendre le début du match. Il y avait pas aucune occasion, il faisait super chaud, c'était pendant le mois d'août. Et à la 70e, t'as un centre, je crois que c'est Aït Fana, ça atterrit sur l'épaule c'est la poitrine de Stevanovic, alors notre kid national, aussi fort qu'un piquion. Et là, t'as l'arbitre, il désigne le point de pénalty, puis voilà, Costa il marque, et après c'est plus le même match, quoi.
Ah oui, je me rappelle
cette parodie de match.
D'ailleurs, à la fin du match, tu vois dans le jour de foot, l'arbitre et Stevanovic devant devant la télé, puis t'as l'autre, il a look, et tu fais non, ça touche ton épaule, ça roule sur le bras.
Pas la même
anatomie avec les arbitres.
Ah, ils ont pas suivi les mêmes cours de SVT que nous, effectivement.
Non, effectivement. Dixit, un économicain, hein?
Économiste.
Bref, on va pas. Économiste, pardon.
Enfin bon.
Faut que je me cache. Ça. Sachant que j'en suis aussi. Bon bref, donc passons par rapport à ces Montpellierains. Donc Arnaud qui se dit assez outré par les performances
montpellierains. Après, pour pas que les supporters montpellierains qui nous écoutent s'offusquent, je reconnais que c'est très bien pour eux qui se retrouvent là. Ça, c'est inespéré totalement à eux. Je comprends qu'ils soient contents des performances entre guillemets, enfin des résultats pardon, de leurs joueurs, mais pas de ce qu'ils peuvent faire. Moi, les deux ou trois montpellierains que j'ai entendus ou que j'ai lus, ils avaient l'air contents du contenu des matchs, de comment ils gagnaient. Pour moi, non, tu peux pas être content. Et moi, je comprends pas comment aussi d'autres supporters de clubs ailleurs puissent être heureux de voir. On nous dit ça c'est du renouveau en Ligue 1, ça fait du bien à la Ligue 1, cette équipe montpelliéraine. Et ben pour moi, je vois vraiment pas comment ça peut faire du bien à la Ligue 1 de voir une équipe qui joue comme ça à la deuxième place du classement.
D'ailleurs, tu parlais des Montpelliérains contents du contenu. Il y en a un autre qui est content, très content du contenu, qui jubile. C'est René Girard qui a dit, donc qui savoure cette belle victoire qu'ils ont entamée malgré donc une entame de match assez difficile. Ils ont bien mis la machine en route. Il regrette cependant donc le dernier quart d'heure où ils se sont mis une pression inutile. Mais voilà, en gros, il s'est dit très content du comportement de l'équipe et du contenu du match.
Donc, très bien. Non, mais chacun son avis. Je ne suis pas un despote qui critique les avis de chacun. On ne citera pas.
Non, il va pas dire que son équipe joue mal quand elle gagne. J'ai jamais vu ça.
Oui, c'est vrai également, mais il aurait pu reconnaître que le contenu laisse quand même à désirer, quoi. Mais bon, René Girard fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, hein. Je reconnais vraiment que...
D'ailleurs, Souleymane Camara qui a marqué, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles de lui.
C'est vrai.
Voilà. C'est depuis son épopée monégasque. Ça fait bizarre de le revoir. Donc, avec Montpellier qui, on le rappelle, a battu Saint-Etienne 2-1. On peut passer, donc, comment?
Non, je dis effectivement, Fabien doit s'en rappeler aussi de Souleymane Camara qui... Nous avait mis, même si c'était un petit peu un boulet parfois, il nous avait mis quelques buts qui nous avaient quand même sauvés, et il était parti quand même avec un peu plus haut dans mon estime que quand il avait débuté à Monaco. Voilà. Bref. Passons.
Souleymane Camara, passons, bah, on passe, et on arrive à un match on ne peut plus sérieux, donc ce qui a opposé Lyon et Sochaux-Montbéliard ce soir, et la défaite lyonnaise, personne s'y attendait, à commencer par moi, avec, par exemple, pour l'info, une cote de 1,05 sur côté match, donc voilà, donc, bien joué.
50 pour Sochaux.
Et ben voilà, bien joué à ceux qui ont osé parier pour les Sochaliens, donc défaite lyonnaise 2-0 à domicile, un but de Jacques Fati, ancien Marseillais, et de Sloane Priva à la 89e. Lyon, il me semble, Fabien, que tu as vu le match, bah Lyon qui a légèrement dominé cette rencontre, qui avec de la réussite bien sûr, c'est ce qui manque quand on marque 0 but et qu'on domine le match, c'est dans la réussite qu'on pêche. Lisandro Lopez, on m'a dit que Lisandro Lopez revenait de blessure, ainsi que Michel Bastos. Ça s'est ressenti dans leur performance. Donc, première défaite de la saison pour Lyon. Et à noter la titularisation de Maxime Gonalons. Voilà. Ça vous dit rien. Il avait déjà été titularisé.
Gonalons, c'est un joueur sur oui. lequel maintenant Claude Puel compte. Hein, ça, c'est clair.
D'accord.
Et c'est formidable quand même. Il se fait prendre pas mal de fois par vitesse par Mikari, mais il a tenté une frappe à la fin, mais c'est parti en drop. C'est
tout. Et son poste, ça serait plutôt milieu défensif, plutôt dans un rôle de relayeur.
Il était à côté de Makoun, donc ça blindait derrière déjà.
D'accord.
Non mais voilà. C'est clair que là où ils ont pêché les Lyonnais, c'est dans l'animation du jeu. C'est vrai qu'avec Makoun et Gonalon, ils étaient tous les deux plutôt regroupés derrière. Mais ça, la titularisation de Gonalon, ça vient toujours du problème défensif des Lyonnais qui sont obligés de mettre Toulalan en défense centrale. Hein. Et ça, c'est clair que tant qu'ils vont se priver de Toulalan au milieu, bah, ça va se ressentir. Et voilà, après pour revenir à Lisandro, il a clairement manqué de rythme sur ce match-là. Il a surtout essayé de combiner avec Gomis dans l'axe, mais c'était pas franchement exceptionnel par rapport à ce qu'il a pu montrer aux supporters lyonnais et à tout le monde dans le début de saison. Donc voilà, c'est une performance plutôt inquiétante pour elle en vue du match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Et puis sinon, on a pu voir quand même que en l'absence de Pjanic commence quand même à manquer quand il joue pas. Je pense que Puel avait choisi de le faire souffler, finalement il l'a fait rentrer en seconde période et son entrée a quand même pas mal apporté à Lyon quoi.
D'accord. Oui, juste une petite remarque. Alors je sais pas, c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment pur lyonnais avec nous. T'as peut-être eu l'information, toi, Dark, ou alors toi, Fab. Pourquoi on n'a pas essayé de mettre Kallström d'entrée? On a dit que Pjanic était préservé pour la Ligue des Champions, d'accord. Pourquoi on peut pas mettre Kallström d'entrée, qui est quand même plus solide qu'un Gonalon, qui est, rappelons-le, quand même les prémices, enfin ou les suites déjà de la belle génération lyonnaise qui s'annonce. Là, on avait vu le jeune Taffer qui avait marqué il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Là maintenant, c'est lui. On nous a annoncé 2-3 joueurs du côté de Lyon qui pourraient arriver cette année ou l'année prochaine. Donc c'est bien si Lyon continue à travailler son centre de formation,
Et pendant ce temps-là, Gassama qui est toujours en CFA, ça me fait quand même Bah c'est un peu bizarre quoi que, enfin il avait été intégré au groupe lyonnais suite aux blessures, mais finalement j'ai l'impression que Pjell ne compte plus trop sur lui. Après sur Karlström, moi je pense et j'ai lu ça en tout cas sur différents sites que c'était aussi un choix purement tactique on va dire en tout cas de Claude Puel, en tout cas de le préserver en vue du match de Ligue des Champions. C'est un peu la même pour Pjanic. Après je sais pas, peut-être qu'il était touché, mais moi à ce que j'ai lu c'était ça, préservé pour le match de Ligue des Champions. Donc je pense que côté lyonnais on s'est peut-être vu un petit peu trop beau en jouant à domicile contre Sochaux et on a cru bien penser et bien en faisant souffler deux joueurs assez importants de l'effectif lyonnais.
Voilà. Le pauvre Gassam. Oui, attends, juste le pauvre Gassama qui, on se rappelle l'année dernière, jouait, et s'il arrive même pas à prendre une place de titulaire avec Réveillère devant lui, je sais pas comment il va réussir à devenir réellement pro. Hein. Non, mais sans rigoler, Gassama, il me semble que ce qui a fait chuter sa carrière, il avait fait quelques bons matchs après son intégration au groupe A de Lyonnais, et il avait fait un match catastrophique contre le PSG l'an dernier. Il y avait dû avoir, enfin, je sais plus comment ça avait marché, et je me rappelle que c'est après ce match-là qu'on a commencé à moins le voir ou plus le voir du tout. Bon, je suis pas un expert lyonnais, mais il me semble que ça a été ce match-là qui a été un petit peu le match déclic dans le mauvais sens. Voilà.
Dan confirme la blessure de Réveillère.
Ah, l'augmentation de salaire, vous avez vu les gars.
Et par rapport à ça, au match, tu disais donc Karlström qui n'a pas été essayé d'entrer. Claude Puel n'a utilisé que deux remplacements, donc voilà, Karlström, Claire, Vercoutre sont restés sur le banc, ainsi qu'Ederson, voilà.
Non, Ederson est rentré.
Ah bon?
Ouais, c'est Karlström qui est pas rentré.
D'accord, Karlström qui est, ok, autant pour moi. D'accord. Je voudrais parler un peu de Sochaux, parce qu'on a, tant que t'es là, Dark Rafale, on va en profiter. Donc Sochaux, on le rappelle, est le grave accident de Charlie Davis cette semaine.
T'as aux des États-Unis. Nouvelles, Dark, concernant ça, ou pour l'instant on en est toujours au même point?
Écoute, bah il est passé par-dessus un pont, il s'est bouffé un poteau. Donc dans la bagnole, il y avait trois personnes, donc une femme qui est morte. Lui, bah il a eu la vessie lacérée, une fraisure cassée, fait pas mal de trucs.
C'est tellement en romantique fait, quand Dark tape ça, il est passé au-dessus d'un... Il s'est explosé contre le couteau, il a la vessie défoncée.
Bah écoute, il en a pour un an pour apprendre à marcher, et 6 mois de rééducation, donc je pense que sa carrière elle va s'arrêter là.
Ah, et c'est, franchement, c'est réellement, réellement dommage, parce que, tu t'en rappelles, on en avait parlé avec toi, c'était vraiment un super joueur. Sochaux avait fait pratiquement un des meilleurs recrutements de Ligue 1 cette saison, si t'enlèves évidemment les gros joueurs comme Lucho et les autres, comment ils s'appellent, Lisandro Lopez à Lyon. C'était pour moi un des meilleurs coups niveau rapport qualité-prix fait en Ligue 1, et ce joueur m'avait vraiment tapé dans l'œil et je suis vraiment déçu.
Il avait commencé à rentabiliser en tout cas son transfert en réalisant un bon début de saison.
Ah oui, oui, réellement. Oui.
Contre Bordeaux, faut signaler. Il met 2 buts pour sa première entrée en 45 minutes.
Ouais, contre Monaco, où il joue très bien. C'était là où je l'avais vraiment vu. Enfin, il m'avait vraiment paru très intéressant comme joueur. Mais bon, au-delà de ça, vaudrait peut-être mieux quand même qu'il ne refasse jamais de foot et comment qu'il ait survécu à son accident. Évidemment.
C'est sûr.
Oui, donc Dark Rafal, parle-nous un petit peu de Sochaux plus généralement ce soir. Comment tu les as trouvés, puisqu'on a parlé un peu des Lyonnais, est-ce que justement Sochaux, à ton avis, a fait le match qu'il fallait? Sochaux a été comment, agressif plutôt, ou Sochaux a attendu?
C'est la première fois que je les vois solidaires depuis le début de saison. Pour une fois, ils ont tous joué tous ensemble. Alors, depuis le temps qu'on le demandait. Mon avis, voilà, c'est sûrement, c'est malheureux à dire, mais je crois qu'il y a plein de trucs comme il est arrivé à Davis pour qu'ils aient une prise de conscience énorme. On a vu des chèvres faire un match énorme. Je pense à Perkis.
Ah, tu penses vraiment que ça aurait pu avoir une incidence?
Ouais, je pense. Bah d'ailleurs, par exemple, le coach, je sais pas si vous avez l'habitude de lire les réactions de Gilo après les matchs, le pessimiste, là.
Ouais, c'est
il
vrai.
Il a toujours envie de se pendre, et puis, là, après,
bah non, mais si c'est vrai,
ça y est,
il y a un avion qui s'est écrasé dans le monde, c'est sur ses pompes, c'est vrai, Gilo,
C'est le désespéré qui veut toujours se pendre tous les week-ends. Mais là, il était content, après l'accident, il était là, oui, ça va les rassembler, machin. Première fois que je le vois optimiste. ça y est, on gagne 2-0. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis comme je disais, les Chèvres qui ont fait un sacré match là. Perkis, il a été impérial dans les airs. Il a réussi à sortir des ballons proprement. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. D'habitude, c'était dans ses propres buts, mais.
Jacques Fati a marqué.
Oui, Jacques Fati a un but. Oui, ça aussi, il faut le faire remarquer parce que quand même. D'habitude, il les met dans son camp comme contre Toulouse, mais là, il la pousse. Faut noter aussi la belle passe décisive de Hugo Lloris. Hein. Encore un grand match.
Ah non, ça c'est faux. Pourquoi tu dis encore un grand match? Non,
mais oui, parce que faut pas.
Ah mais ouais, c'était pour chambrer, je comprends bien. Mais
oui. Avec la guerre des Lyonnais, Marseillais, dès qu'il y en a un qui fait un mauvais match, ils viennent pour le saquer.
Non, mais bon, le problème c'est que Mandanda fait toujours de mauvais matchs.
Ça y est, voilà l'autre, il a rien.
Non, mais le duel commence sérieusement à m'agacer, quoi. Je veux dire. Arrêtez de croire que Mandanda il a le niveau pour jouer en équipe de France, voire même pour jouer dans un grand club européen. C'est un bon joueur.
Non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Ruffier titulaire en équipe de France, t'as tout à fait raison.
Il y a 6 mois, 4 joueurs, meilleur que Mandanda.
Hugo, je te rassure, ici personne ne te contredira.
Hugo, le coup de gueule qu'il a poussé, c'est mythique. J'espère que Dan.
Là, c'est le bon vieux Lorrain qui est sorti de la caverne entre deux verres de rouge.
Ah, mais Mandanda, c'est vraiment de la merde.
Voilà.
Si tu savais, si tu avais une culture un petit peu plus évoluée, Roméo, tu saurais qu'on ne boit pas des verres de rouge en Lorraine, mais de l'alcool de Mirabel. Voilà.
Sauf que je me permets de dire ça, puisqu'il l'a signalé avant l'émission, mais ça ne nous regarde pas, ça vous regarde pas. Concernant Mandanda, je suis beau être marseillais, je préfère voir Lloris. Dans les cages avec l'équipe de France.
On parlait de Sochaux au départ, toi.
Voilà, donc revenons à nos moutons, revenons à nos Sochaliens, nos Lyonceaux même, pour être plus précis. Et quoi de neuf par rapport au petit.
C'est un peu l'élève qui dépasse le maître, parce que les Lyonceaux qui battent le Lyon quand même.
Oh, c'est beau. Oh là là.
C'est beau. Bravo. Ça mériterait même un jingle. Une là,
envolée Baudelaire. Ce sera dans le best-of.
Une envolée baudelairienne, franchement. Qu'est-ce que demande le peuple sur Génération Soccer? Ouais. Je voulais te demander d'un rafale d'un ancien monégas, justement, Maurice Belay, il donne quoi chez vous? Parce que je sais que chez nous, il avait vraiment pas convaincu à la sortie du centre de formation. Je le vois qui est de plus en plus, voire pratiquement titulaire, pas indiscutable.
Ouais, il s'impose de plus en plus.
Ouais, il s'impose
de plus. Ses qualités de percussion, ça c'est ce qu'on n'a pas avec nos milieux à nous, mais par contre, dans le dernier geste, il est horrible. Les centres, c'est où il les fait tip-top ou ça part n'importe où. Autrement, il a une part bleue du but aussi. Il est tout seul face au but, mais il frappe pas. Je sais pas ce qu'il a. Et sinon, elle est pas de quoi.
T'as pas pris un peu du giloïde, tu vois, hein, une giloïde aiguë, parce que t'as l'air aussi un peu pessimiste, quand même.
Non, mais
tu parles de tes joueurs, alors tu t'enfonces Perkis et Fati, tu les démontes, derrière tu démontes Maurice Belay. Et oh, t'as gagné confiance ce soir. Mais...
Non, c'est pas heureux. J'aime bien Maurice Belay, mais voilà, le dernier geste, il est horrible. Faut être réaliste aussi, quoi.
Très bien.
Franchement, quoi. Tu vois les centres de Martin, les centres de Maurice Belay, tu vois tout de suite la différence technique entre les deux. Mais par contre, dans les dribbles et tout, là, par contre, il est très très fort. Là. Je pense que même que c'est le meilleur avec Boudebouze. Mais sinon, ouais.
Marvin Martin, ça c'est un super joueur, ça aussi. Oh, ça j'aime beaucoup. Ça c'est, je sais pas quel âge il a, mais lui.
Il va vers ses 21 ans.
D'accord. Bah lui ouais, c'est vraiment ouais voilà, c'est vraiment l'avenir avec on y reviendra peut-être tout à l'heure avec un mec comme M. Villa qui a joué mardi dernier là avec les espoirs justement. Oh, voilà. Ça c'est des joueurs mais vraiment fantastiques sur lesquels je pense que la France, si on s'enflamme pas là-dessus, peut compter dans les années futures parce que Marvin Martin m'impressionne vraiment et puis M. Villa aussi, bref, on y reviendra tout à l'heure.
Le petit Noguera me plaît bien aussi. Le petit Noguera.
Ouais, bah lui.
Vas-y.
Ça fait longtemps qu'il intégrait les pros, mais qu'il jouait jamais. Et parce que la saison dernière, il a eu une pubalgie, ou je sais plus comment on dit ça.
Si ça.
Et pendant un an,
pubalgie.
Cette saison, il a démarré en trombe contre Auxerre. Il avait fait un sombrero, puis une passe décisive derrière pour Zverkos. Mais après, il s'était reblessé 3 semaines. Et après, bah maintenant, ça retourne mieux. Hein. Il fait des bons matchs. Je le préfère à Boudebouze dans le travail défensif parce que lui il revient défendre alors que Boudebouze lui dribble tout le monde et puis il ne dénarre pas à nous.
C'est vrai qu'il a un peu le même style, Boutbouz, que Ben Arfa. Mais Boutbouz joue pas un peu plus haut que Noguera, non? Il joue pas, par c'est exemple, à la place de Maurice Ballet ou Mikari, quoi, sur les côtés.
Ouais, il joue sur les côtés. En fait, les deux jouent sur les côtés, mais Noguera, il est plus, un peu plus défensif, il revient mieux. Alors que Boutbouz, lui, bah, il prend la balle, puis il fonce devant, quoi. Donc, ça dépend des matchs, en fait. Quand il faut défendre, bah, comme ce soir, on a mis Noguera.
D'accord.
Alors, aussi Boutbouz qui était, suspendu, mais. Je pense par exemple que la semaine prochaine contre notre bête noire, Lorient, il y aura Boutbouz à sa place. Je pense.
Et un petit coup de gueule de Rémi, et qui veut qu'on dise Auxerre et pas Auxerre. C'est assez récurrent chez vous. En plus, vous êtes bourguignon, donc c'est pas du joli tout ça. Auxerre.
Je m'en vais lundi.
On dit Auxerre et pas Auxerre. Voilà. Donc. On a fini avec ce match Lyon-Sochaux, la première défaite lyonnaise, et Lyon se fait rejoindre par Montpellier. Voilà, petite dédicace à Pierrot, soit dit en passant. On va pouvoir passer tout de suite au match qui suit dans la liste des matchs. C'est Auxerre-Bordeaux. Ça me fait plaisir parce qu'on a un Auxerrois et on a un Bordelais ce soir. Donc je rappelle le résultat grâce à un pénalty transformé par Birsa, ancien Sochalien d'ailleurs. Les Sochaliens sont partout. Victoire 1-0 d'Auxerre, je vais te lancer tout de suite.
Le match, on s'attendait pas du tout à ça. On a eu une première mi-temps où Bordeaux, ils ont complètement dominé. D'ailleurs, il y aurait pu avoir 1-2-0 pour eux à la mi-temps. Bah, j'étais soulagé qu'il y ait 0-0. En deuxième, Fernandez, il a sorti Oliège, il fait rentrer Chafny. Ça a apporté dans la conservation du ballon et tout. Et du coup, on était plus offensif. On aurait pu en mettre 3-4 aussi, mais on n'a pas réussi, on n'a pas du tout été réaliste. Heureusement qu'il y a eu le péno de Birsa. Même si, à mon avis, il n'y a pas péno, mais bon... Après, oui. Je sais pas ce qu'en pensent les Bordelais.
Yac,
qui avait. Mais non. Ouais, il y a une belle simulation. Mais bon, on va dire merci l'arbitre, c'est bien joué. Mais bon, sur la deuxième mi-temps, c'est clair que Auxerre mérite sa victoire. Hein. Autant sur la première mi-temps, il y a eu quelques bonnes combinaisons côté Bordelais, quelques occasions, même s'il y avait du déchet. Mais en deuxième mi-temps, ils sont complètement désorganisés. Ils laissaient des trous énormes derrière, de la place pour les contres. C'était assez horrible derrière. Mais Bordeaux, ils auront un problème, je pense, récurrent cette saison. C'est quand on entend parler Laurent Blanc, il parle de conserver le ballon dans un premier temps et créer des décalages. Ça c'est bien, mais le problème, on l'a vu contre Saint-Étienne, les adversaires s'y adaptent et laissent venir et bloquent dans l'axe les Bordelais, les joueurs axiaux. Et étant donné qu'il n'y a pas tellement de joueurs de côté, ils sont assez faciles à prendre en contre. Que Auxerre a fait un petit peu le même genre de tactique et on voit que ça marche encore. Donc, à ce niveau-là, grosse inquiétude quand même pour les Girondins.
Juste, moi, je voulais revenir sur le fait là que tu as dit, le fait de jeu, qui influe quand même sur le score à l'arrivée, le penalty.
Ouais.
Pour moi, entre nous, ça importe peu, entre guillemets, évidemment, parce que c'est un point, mais pour moi, une équipe comme Bordeaux, qui a évidemment l'ambition d'être championne, là au moins Jean-Louis Trio l'a dit au bout de trois jours, ou même au bout, avant le début du championnat, il avait dit qu'il jouait le titre cette année. Pour une équipe qui a l'ambition d'être championne, tu peux pas de toute façon te contenter d'un match nul à Auxerre. Je n'ai pas fait la faute, tu remarqueras, Rémi, à Auxerre. Et donc, dans tous les cas, que ça soit un match nul ou défaite, pour moi, ça changeait pas grand chose et on peut pas, après aller, rejeter la faute sur un penalty, même si tu l'as justement, on te l'a pas fait ce soir, mais, je sais qu'il y en a sûrement des supporters bordelais qui vont le faire. On pouvait pas, de façon, à Bordeaux se contenter d'un nul ce soir, compte tenu des ambitions que les Bordelais ont pour moi. Donc, il y a le penalty, entre guillemets, influe peu sur ma vision du match et ma vision des Bordelais ce soir. Voilà.
Ah ouais, tout à fait. Puis comme je disais, sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo, je crois. J'ai pas les stats, mais il y a facile 4 fois plus d'occasions pour les Auxerrois. Hein. Donc,
enfin, vous pouvez égaliser.
Il y a rien à dire. Hein.
Vous pouvez égaliser à la toute fin du match. Là, c'est, j'ai vu, c'est en plus cette dernière action là.
Ouais, aussi, ouais.
Alors là, c'est sublime. Par contre, si vous égalisez là, c'est magnifique. Mais bon.
Ouais, c'était une belle action.
Auxerre en deuxième mi-temps, ils ont quand même eu 3-4 face à face, je crois. Et ouais, bah, il y a eu un face à face, ils étaient pratiquement deux contre le gardien. Nicolas, il a raté. Après,
Nicolas, ça y est, il revient dans la normale. Là.
Non, il a été bon.
Autant, ça, il croque toujours autant.
Oui, voilà, il croque toujours autant.
Ouais, mais bon, en même temps, il a plus d'occasions qu'avant. Avant, il avait rien du tout. Et Yalen, il a eu 3 face à face. Il en a raté 2, puis l'autre elle a été sur la barre, donc là, mais il y avait déjà le premier but quand il a tapé la barre.
Mmh. Oui.
Mais moi je voulais juste revenir sur Bordeaux. Je pense que ce soir Laurent Blanc il doit bien avoir entre guillemets les boules d'avoir un peu lâché le match contre Saint-Etienne juste avant la trêve internationale, où il avait fait souffler pas mal de joueurs de façon assez incompréhensible. Et donc voilà quoi, ils ont perdu, là ils enchaînent une deuxième défaite, mauvaise dynamique. Et je voulais surtout revenir sur Kavenaghi qui foire son penalty apparemment en glissant et qui est vraiment dans une dynamique assez pitoyable, assez catastrophique. Et je me demande même s'il va arriver à inverser la tendance, parce que là ça devient quand même assez catastrophique, au risque de me répéter.
Mais sinon, en première mi-temps aussi, je vais ajouter que quand même Bordeaux sont tombés sur un grand Sorin. Il revient un peu à son niveau de la fin de saison dernière et il sauve l'équipe.
Ah, il a fait deux, trois belles parades, ouais. C'est vrai que Kavenaghi, ça va commencer à poser problème. Il est, on sait ce que c'est, hein. Au but, il sait pas se retourner, il sait pas éliminer, il a pas de conduite de balle. Mais d'habitude, il compense en fixant ses adversaires. Il a une bonne qualité de passe et puis il a un sens du but extraordinaire. Quoi. Là, le problème, c'est qu'il foire toutes ses passes. Il se crée pas beaucoup d'occasions et en plus, il foire ses pénalties. Il devient vraiment de plus en plus inutile. Je pense surtout d'ailleurs qu'on a cliqué sur le plan rapidement.
Ouais, surtout qu'en plus, je pense que ouais, c'était un penalty pour histoire de lui redonner confiance et ça fait un peu l'effet inverse. Donc c'est clair que c'est pas du tout bon. Et à l'inverse, pour Auxerre, je crois qu'ils étaient, ils ont super mal commencé la saison et puis là, ils reviennent bien. Je crois qu'ils sont 7e ce soir au classement. Donc là, voilà, Auxerre, c'est tout bonus. Mais pourtant, Auxerre, c'est pas une équipe qui me fait rêver. Mais bon, c'est pas mal. Mais c'est toujours derrière Monaco, c'est ça qui me rassure.
Mais Auxerre par rapport au début de saison, c'est largement mieux. Enfin après, je sais pas, par exemple le président, il nous a dit par exemple que le match la victoire contre Rennes la semaine dernière, c'était du bonus et ça rattrapait la défaite contre Sochaux à domicile. Bon voilà quoi, mais on a gardé la même équipe que l'an dernier. On a perdu nos 3 premiers matchs, donc déjà on se posait des questions quoi. C'était vraiment pas normal. Bon là on retrouve du jeu, ce soir il y avait quand même du jeu quoi. C'était pas non plus à chier quoi. Parce que je sais pas, en t'entendre on pourrait croire.
Ah non mais je dis pas ça, hein. Moi j'ai pas vraiment vu le match, j'ai juste vu quelques actions. Mais après, je veux dire sur le papier, les joueurs qui sont alignés, ça fait pas forcément rêver. Après c'est clair que Auxerre, au vu de ses performances, je pense que au niveau du jeu collectif, ça doit pas mal tourner, ça doit pas mal jouer. Mais des souvenirs que j'en ai, je crois que je les avais vus au début de saison, c'était pas fameux. Et là ça a l'air quand même d'être mieux, donc tant mieux pour les Auxerrois.
Excuse-moi Rémi, par rapport à la composition bordelaise, c'était un 4-4-2 classique ce soir.
Ouais, 4-4-2 à plat, ouais.
Ah, d'accord. Avec Plasil sur le côté droit et Wendel sur le côté gauche.
Vas-y, pour revenir Arnaud à ce que tu disais là, sur la composition qui était pas terrible. Bah déjà on a eu de la chance aussi parce que Capou il était suspendu. Bon déjà lui En fait, c'est tous les Auxerrois qui veulent le voir sauter. On sait pas ce qu'il foutait en fait sur le terrain, mais bon. Il y avait Birsa, il jouait moins bien aussi depuis le début de saison. Il faisait pratiquement que de la merde aussi. À Rennes, il a été meilleur. Il a marqué aussi avec la sélection slovène, je crois. Un but qui était pas mal, j'ai pas vu, mais apparemment c'était ça. Bon, là, il a encore marqué, donc là, il va prendre pas mal de confiance. Puis bon, bah j'espère que Capou, il va sauter, quoi.
Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà pour le petit coup de gueule. Coup de gueule ou nez de Rémi par rapport à Étienne Capou. C'est bien ça.
Aurélien.
Ah, Aurélien. À chaque fois, je me trompe.
Étienne Capou qui joue à
la gare de Toulouse, non?
Non, même pas. Il me semble que même pas. Donc voilà. On va tout de suite.
Même si on précise la différence, Roméo ne comprendra jamais, en fait. Il fait souvent cette erreur entre Aurélien et Étienne.
C'est vrai en plus, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un Étienne en plus.
Mais voilà.
Alors voilà, c'est bon. Je fais souvent l'amalgame entre les deux. Vas-y à toi Hugo.
Donc tu peux récapituler sur Capou, lequel joue où?
Alors Aurélien joue à Auxerre et Étienne à Toulouse.
Bravo.
J'y suis arrivé. Merci Fabien. Vas-y Hugo.
Ben moi je me demandais ce que devenait Chamac, puisque moi en début de saison il marquait un but par match, puis là il marque plus et je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue moins bien, donc je sais pas si Yacbé tu peux dire un peu plus sur Chamac.
Très 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 moyen depuis ça, les trois premiers matchs il était plutôt bon. Il y avait eu un match, je crois il y avait eu un match où il était passé à travers en première mi-temps, mais une grosse deuxième mi-temps. Mais depuis, c'est très très moyen, vraiment. On ne voit plus beaucoup. Il fait il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Il pèse de moins en moins. Puis il se crée plus du tout d'occasion. De plus en plus décevant, Chamac, ouais.
D'accord. Très décevant, donc Marouane Chimer, le Marocain des Girondins de Bordeaux. Je pense qu'on a bien parlé de ce petit match Auxerre-Bordeaux. Oui.
Attends, juste concernant Chamac, par exemple, sur ce match,
au stade.
Son point fort, normalement, je pense que c'est quand même la tête. Fernandez, avant le match, il a dit que c'était le meilleur joueur de tête de la Ligue 1. Bon, après... je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais bon. Je pense que c'est quand même l'un des meilleurs, déjà. Mais après, aujourd'hui, il avait Gritching ou Doudka. Ils sont pas spécialement très bons de la tête, quoi. Il a pas du tout été énorme, quoi. Il est vraiment à ras des pâquerettes.
Ouais, c'est-à-dire que l'avantage avec Chamac, c'est que bah non seulement il est assez incroyable de la tête, soit devant le but ou dans l'entrejeu, mais il est assez agile, assez rapide, donc il est super complet. Et le problème, c'est que en ce moment, il se contente de ses déviations de la tête, quoi. Donc, par rapport à ce qu'il est capable de faire, c'est décevant. D'autant plus qu'il se crée plus d'occases, il marque plus de buts, donc ça devient vite très très moyen. Et ce qui est le plus marquant, c'est en Ligue des Champions. Sur les deux premiers matchs, il a été, mais alors, complètement fantomatique. On l'a pas vu du tout. Il se crée pas une seule occasion alors qu'il est tout seul devant. Il s'évapore. Il fait des déplacements inutiles. Des erreurs techniques. Enfin voilà. Je sais pas si c'est dans la tête ou pas. Mais ouais, il est clairement en baisse de niveau par rapport à la saison dernière. Ça, il n'y a pas photo.
Peut-être la tête ailleurs.
C'est possible. C'est pas tout. Dans sa tête, hein, comme je disais une fois dans l'émission, il est pas très stable, dirons-nous. Ça doit jouer aussi, ouais, probablement.
Ouais. Voilà pour fermer définitivement, pour clore le cas Chamac. Chamac, voilà, on va passer au match qui me tient un peu à cœur, l'avant-dernier match de cette soirée, Nancy OM. au stade Marcel Picot et cette victoire marseillaise, 3 buts à 0, un but de Valbuena titularisé, un but également de Fabrice Abriel et un but de Brandao. Voilà pour ce match Nancy-OM, l'OM qui a évolué dans une autre tactique, dans un 4-2-3-1 qui n'avait pas encore été utilisé de cette saison avec Edouard Cissé, Chéroux à la récupération, Valbuena sur le côté droit, Nyang à gauche, Brandao en pointe et Abriel dans l'axe. Ça reprend un peu le schéma de jeu utilisé l'année dernière sous l'ère Guéretz, avec cette fois-ci Valbuena sur l'aile droite. D'ailleurs, entre nous, je le préfère à droite que dans l'axe. On va revenir là-dessus après. Et donc Nyang à gauche et Brandao en pointe. Concernant l'équipe, une belle solidité défensive. Marseille a montré une belle solidité défensive avec une possession largement acquise à la cause des Marseillais, avec beaucoup d'occasions, et ce score de 3-0 est tout à fait logique. Donc Brandao a marqué, c'est aussi une des nouvelles de la soirée. Il a beaucoup croqué, notamment sur cette tête en seconde période où il rate l'immanquable quasiment. Brandao, écoutez, il fait ce qu'il peut. Ça se voit qu'il est limité, ça se voit qu'il maîtrise pas trop ses pieds, mais il fait de son mieux. Et c'est mieux qu'un Morientes qui est là en touriste, voilà. Donc j'en profite pour cracher un peu mon venin sur Morientes qui fait un match sur 4, et le match qu'il fait sur 4, c'est parce qu'il joue son ancien club au Bernabéu, quoi. Voilà. Sinon, concernant Valbuena, il a montré de belles choses, contrairement à l'intermittent du spectacle Ben Arfa. Lui, Valbuena, il a jamais été titulaire cette saison. Il est titulaire pour la première fois. Et en 60 minutes, je pense qu'il a gagné ses galons titulaires, parce qu'il a été excellent. Il s'est battu sur tous les ballons, il a montré une excellente envie, il a accéléré le jeu à la manière, sans en faire trop, propre, en une touche de balle, voire deux. Vraiment super match de Valbuena. Et là, il a clairement poussé Ben Arfa sur le banc. Je pense que là, il n'y a plus aucun doute. Et voilà Ben Arfa, il devrait en prendre la graine, Valbuena. Voilà, il s'est vraiment bien battu, il a montré de l'envie, alors qu'il était sur le banc depuis. Il est sur le banc depuis le début de la saison, alors que Ben Arfa, il y a un clair contraste quand il rentre. Ben Arfa, c'est la différence d'attitude entre les deux. Ben Arfa qui est nonchalant, qui a le ballon, qui attend 5 minutes, qui passe du pied gauche au pied droit, hop, il fait ses petits gris-gris, il ralentit le jeu, hop, il essaye de faire un petit point, dribble, il rate, il perd le ballon. C'est la routine Ben Arfa, Ben Arfest. Comment?
T'es un fan?
Est-ce que je vois? Non, au contraire d'un certain gourou, voilà. Donc, l'exceptionnel gourou du Topic OM, pour ceux qui connaissent, qui veut nous faire croire que Ben Arfa a un talent immense, mais en fait, s'il n'explose pas, c'est de notre faute. En fait, il est très bon, mais on lui met trop de pression. Et d'ironie, je reprends les propos de gourou. Concernant Ben Arfa, par rapport à la victoire, à la performance globale de l'équipe, un beau match, et je pense que ça va servir de leçon à tous les pélos, pour prendre l'expression de Yak du Topic OM, qui croyait qu'il fallait tout changer, que rien n'allait, à commencer même par les, j'en ai même vu vous demander la démission de Jean-Claude Dacier. C'est dire si on pousse la connerie assez loin sur le Topic OM, mais plus
rien.
Comment?
Ils ont joué contre qui, l'OM, ce soir?
Contre l'ASNL. Ah non, si. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Non, mais attends, je
Et finis. Tu tires des conclusions d'une victoire à Nancy?
Ah, je ne tire aucune conclusion, j'analyse le match et les performances des joueurs. Voilà.
Ok. Bah, je te laisse. Ouais,
non, mais c'est pas forcément par rapport au match, mais en réponse à, c'est parce qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des missions depuis la défaite contre Monaco, à tous les connards là qui voulaient la démission de Jean-Claude Dacier comme si c'était de sa faute, voire de Didier Deschamps. Bref, voilà, on va pas en revenir. Au niveau de la défense, Bonnard Haché. Voilà, Bonnard Haché, on a beau dire ce qu'il veut, il est mignon, il est gentil, mais il est mauvais. Il est tout simplement mauvais, il s'est fait bouffer par Hadji tout le match. C'est monté nul, il a une qualité de centre trop faible. Donc voilà, j'ai envie de voir Bokkali. J'ai envie de voir Didier Deschamps faire confiance à Gary Bokkali. Donc voilà, Marseille qui gagne 3-0 à Nancy malgré quelques absents, l'absence de Bia, l'absence de Diawara, de Heinze. Voilà, et de Lucho. Donc Abriel, excellent match également. Excellent match d'Abriel. Pas vraiment de déception, à part, comme j'ai dit, Bonnard. Taïwo, bof, quoi. C'est pour changer, quoi. Taïwo, bof. Voilà. Une question, Darkraft.
Je sais plus si c'est sur le but d'Abriel ou de Brandao. Il y a Nyang, il se fait couper en deux. Et là, il y a le but juste après, et on le voit, il sort de douleur, mais j'ai pas vu s'il était blessé ou c'était juste comme ça.
Tu parles de Nyang?
Ouais, Nyang.
Je l'ai vu, se tordre de douleur, je sais pas s'il est blessé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était très incertain pour le match. Et, moi, je le voyais pas débuter. Et je sais pas si, donc, comme tu l'as dit, si c'est vraiment fait mal, il y a pas trop d'infos. Voilà, il n'y a pas trop d'infos par rapport à ça. Voilà, par rapport à la blessure, à la possible blessure de Mamadou Niang. Voilà, par rapport au match, personne n'a d'autres questions par rapport aux performances individuelles. Je sais que Yak, tu t'apprécies énormément, t'as été wow.
Voilà. Ouais. Non, mais on remarque surtout que là ils avaient, bon, j'ai pas vu le match hein, mais je regarde juste la feuille de match, l'équipe était équilibrée a priori par rapport à ce qu'on a pu voir les autres fois, c'est-à-dire que souvent je lis et j'entends les supporters cracher sur Valbuena parce qu'il n'est pas décisif, ok, mais Valbuena il apporte de la largeur qu'aucun autre joueur n'est capable de faire à Marseille, à part Koné qui était blessé jusqu'à maintenant. Et moi, je pense que ça peut être tout de même intéressant de le faire jouer titulaire, ne serait-ce que pour ça, parce qu'on a vu, c'était contre Valenciennes et aussi contre Monaco en première mi-temps, qui est dans l'axe et c'est assez facile à bloquer, on l'a vu, il est rentré en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Oui. Donc voilà, moi je pense que ce système a priori est pas mal, il faudrait juste intégrer Lucho quoi. Oui. Mais Valbuena, moi je le vois bien s'imposer à droite là, ouais.
Bah comme tu l'as dit, il y a pas de raison de l'enlever après sa superbe prestation ce soir. Ah, même moi, il m'a conquis. Je l'avoue, je l'ai beaucoup critiqué l'année dernière, mais là, en 60 minutes, je pense qu'il a poussé définitivement Ben Arfa sur le banc. Et Koné également, j'ai oublié de le souligner, mais Koné a fait une excellente rentrée avec deux passes décisives. Et bah, une solution de plus au niveau des ailes, pourquoi pas, en soutien des attaquants. Voilà.
Et, J'avais juste une question par rapport au match comme ça. Est-ce que tu pourrais juste me faire vite fait un petit résumé joueur par joueur? Comment tu les as trouvés, etc.
Bah comme je t'ai dit, Brandao il a fait ce qu'il a pu, il a marqué, je vais pas le critiquer, hein, il fait ce qu'il peut comme à chaque match. Au moins lui il se donne à fond, c'est peut-être con ce que je dis, au contraire de Morientes qui donne l'air de quelqu'un qui vient sur le terrain parce qu'on l'oblige quoi, qui fait son travail, il vient là pour jouer à la Ligue des Champions et puis il repartira à la fin de l'année. Niang, sans être transcendant, il a été présent, bon il a apporté de la vitesse à l'instar de son pendant à droite Valbuena. Donc on cherchait le pendant de Niang à droite, on l'a je dirais pas qu'on l'a trouvé, mais Valbuena devrait donc gagner ses galons titulaires sur le côté droit. D'ailleurs, ben, je Pierrot me signale off. Donc je disais que Valbuena a poussé Ben Arfa sur le banc, et ben il me dit que Koné a poussé Ben Arfa dans la tribune. Voilà, peut-être. Concernant Cissé, c'est clair qu'il a pas le même impact physique que Bia au milieu de terrain, mais ce soir on va dire qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Chérou, comme son habitude, là, il n'a pas été, comme à son habitude, il est bon sans être exceptionnel. Régulier, c'est Chérou. Théo, assez, je vais pas dire bien, hein. C'est pas le mot, il a été pas mauvais, pas bon, c'est, voilà, très moyen. Mais bon, c'est Théo, fallait pas s'attendre à des miracles. Bonnard, comme je t'ai dit, le plus mauvais, et sinon la charnière centrale, rien à dire, parce qu'ils ont pas vraiment eu de travail, et Bia, qui est meilleur, bien sûr, en milieu défensif. Et Mandanda, pareil, qui a pas eu beaucoup de travail, voilà. Okay, il me semble que Hugo aussi avait une question.
Bon, déjà, pour calmer un peu les Marseillais, en face, il y avait Grégorini, comment il s'appelle, le gardien titulaire, je ne sais plus son nom, Brassier, était blessé. Donc, on va dire que c'est pour limiter la casse. Et sinon, avec le retour d'Hilton et la titularisation de Mbia, Marseille n'a pas pris de but, alors que pourtant, c'était pas si évident que ça, puisqu'ils avaient pris quand même, je crois, 8 buts en 3 matchs de Ligue 1, sans compter le match du Real. Donc, déjà, je pense que l'OM doit jouer avec Hilton et non jouer comme tout le monde veut. On se dit Diawara, qui est une charnière qui n'a aucun avenir... Surtout avec Mbia devant.
Écoute, Hilton, on en a parlé lundi, dans la spécial Ligue 1, il y avait d'ailleurs Fabien, t'es témoin, qu'on a émis la possibilité, de mettre Hilton associé à Diawara, parce que Enzo et Diawara, c'est un peu le même profil, c'est des deux gros bourrins, et Hilton donnerait une certaine touche technique, tout est relatif, mais ça serait plus technique, plus doux, plus détendu que les deux gros bourrins qui sont Diawara et Enzo. Et donc là, ce soir, c'était Bia qui est assez physique et Hilton plus technique. Donc la charnière, c'était bien complémentaire.
Non, mais surtout qu'il y a personne pour relancer. Mbia, il a pas une grosse qualité de passe. Diawara, Enzo, je vous épargne le sujet. Avec Hilton, il y aura une qualité de passe qui sera largement supérieure. Et donc, on peut avoir des relances et pourquoi pas avoir du plus beau jeu. Quoi.
Et d'ailleurs, Pierrot, encore lui, en off me donne l'éventualité de faire jouer Heinze sur le côté gauche à la place de Théo. C'est possible.
Évidemment.
Pourquoi pas.
Bon, il a plus ses jambes de 20 ans non plus, hein, donc bon.
Heinze à gauche, t'es pas une chèvre à Madrid.
Écoute, je ne suis pas supporter madrilène, mais je sais que Kainze a aussi la faculté de pouvoir jouer au poste de latéral gauche, mais pourquoi pas l'essayer un de ces jours à gauche, en cas de si jamais le problème Taiwo devient de plus en plus gros, voilà. C'est une possibilité, mais voilà pour la charnière centrale. On me dit aussi que c'est deux gauchers. Mais de gaucher, je vois pas le problème. On parle beaucoup de ça. Le fait de gaucher, c'est revenu l'autre jour, il y a quelques semaines, avec pourquoi Enzo n'est pas venu à Paris, parce qu'il y avait de gaucher, il y avait déjà Sako et il pouvait pas mettre Enzo et Sako parce que ça faisait de gaucher. Mais il me semble que à l'Inter, Kivu et Samuel sont de gaucher. Arnaud, si je me trompe pas. Arnaud n'est pas là, dommage. Il aurait pu nous parler de l'Inter parce que il me semble avoir entendu à plusieurs reprises que l'Inter jouait avec deux gauchers en défense centrale.
Ouais, ils ont déjà joué avec deux gauchers, en tout cas, c'est sûr.
Voilà. Donc, je veux dire que on parle beaucoup de ça, mais moi, je vois pas. Si les deux personnes sont complémentaires, jouent bien toutes les deux, je vois pas le problème. Quoi. Après,
Tu parles de quel de gaucher à Marseille?
Ah, parce que on m'a dit que si Hilton et Diawara jouaient ensemble, ça ferait deux gauchers.
Deux droitiers, non?
Oui. D'ailleurs, cette personne pourrait se taire parce que c'est deux droitiers, effectivement. On est parti dans un long délire alors que...
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que deux droitiers, en général, ça dérange personne.
Par oui.
Deux gauchers, oulala, c'est la catastrophe, ils ont tous
les deux. Oui, c'est clair.
Alors que 90% des équipes ont deux droitiers, quoi.
Mais ouais. Voilà, comme tu l'as bien dit.
Juste pour intervenir, comme ça. L'an dernier, ECR, ils avaient Gritching et Mignot aussi en défense centrale. Hein. Et pourtant, ça défendait quand même pas mal.
Oui. Enfin, pas mal.
Dans les 5 meilleures défenses.
Je plaisante,
à la fin. Dans les 5 meilleures défenses à la fin.
Non, mais je taquine.
Meilleur que l'OM, garçon.
C'est vrai. Enfin, la défense de l'OM la dernière, c'était pas vraiment l'assurance tout risque. Voilà. Donc on va rien d'autre, pas d'autres questions à me poser par rapport au match.
Petite question.
Ah bah voilà, je me disais bien.
Est-ce que tu préfères le 4-3-1 avec Hilton et un stopper et voir Lucho en parenthèse chez vous, le 4-3-3 et avec deux stoppers et Mbia? Tu préfères quel schéma tactique en gros?
4-2-3-1 ou 4-3-3, c'est ça en gros?
Oui.
Oui. Ça dépend. Avec le retour de Lucho, faudrait jouer en 4-3-3. On en a parlé parce que Lucho en dit son merci. Et donc avec, je pense qu'on peut adapter. On peut adapter ce système en 4-3-3 avec Bia, Cherou, Lucho, Valbuena à droite, Yang à gauche et Brandao en pointe. Voilà.
Bah.
C'est comme ça que je verrais.
On pourrait pas essayer de mettre Chirou plutôt en récupérateur relayeur et Lucho en espèce de 8 de relayeur.
Bah, c'est exactement ce que je dis.
Dans un 4-2-3.
Dans le mettant 4 de côté. Et qui en 10?
Et qui en 10? Bah, je serais tenté de mettre Ben Arfa pour essayer une dernière fois.
Moi je suis pas d'accord dans le sens que ça manque d'impact physique au milieu de terrain, parce que pour moi Bia doit être absolument titulaire, en plus il est excellent depuis le début de la saison. Donc Bia milieu défensif titulaire, pour moi c'est une évidence. Donc après faut placer Lucho et Cherou. Pour moi la meilleure des solutions c'est le 4-3-3. Voilà pour répondre à ta question.
Moi dans le 4-3-3, Brandao est une chèvre.
C'est clair. Mais dans ce 4-2-3-1, c'est la même chose. Il a, à part Nyang et Valbuena qui sont ses deux soutiens offensifs, Abriel ne joue pas en 9,5, comme il l'a joué, donc il a joué en 10 aujourd'hui, même quasiment 8. Il jouait assez bas. Donc, c'est pas du tout un joueur qui va jouer en soutien de Brandao en 4-3-3. Avec Nyang sur le côté gauche qui repique dans l'axe, pareil pour Valbuena. Je dis pas que Brandao c'est excellent, mais il sera moins mauvais que il sera pas aussi. Je vois pas pourquoi il serait plus mauvais qu'en dans un 4-2-3-1. Voilà, pour je crois qu'on parle un peu beaucoup de Marseille, ça doit vous endormir à force. On va pouvoir passer au dernier match de cette soirée et conclure sur cette soirée Ligue 1. Donc c'était un match qui s'est fini par un 0-0 pour changer Lille-Rennes 0-0. D'ailleurs, il y a eu une grosse erreur d'arbitrage, il me semble, Yac. Oui. Yac? Non.
Ouais, c'est un but de Debuchy qui a été refusé et après l'arbitre a été dire que le but il était en fait valide. Un bon coup de pute comme on les aime, quoi.
Oui. D'accord. Il me semble que Diak pourrait me donner plus de précision parce que justement il en a beaucoup parlé en off, mais bon. Donc, et apparemment, Njimi aurait déclaré s'être trompé à la fin du match. Voilà. Pas grand chose à dire sur ce match, il me semble que personne l'a vu. 0-0. Non, mais
si, hein. tout ce qu'on peut dire, c'est que bah, Lille continue avec ses problèmes d'efficacité offensive, parce qu'apparemment, ils ont quand même pas mal d'occasions de but. Mais voilà, il manque toujours ce buteur, hein, parce que Pierre-Alain Froh, paf, il peut pas planter à tous les matchs non plus. Il a quand même planté, assez, je crois, 4 buts sur les dernières journées, donc c'était pas mal. Mais c'est un peu, comme on dit, l'arbre qui cachait la forêt, pour prendre une expression autre que mettre à l'amende avec un A à amende, bien sûr. Donc voilà, Lille ne s'en sort pas véritablement. C'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés par le corps arbitral qui refuse un but bah, valable, alors qu'apparemment ça se voyait en plus à vue d'œil que c'était un Rennais qui avait contré la frappe de Fauvergue, je crois, et non pas un Lillois qui était soi-disant en position de hors-jeu. Donc voilà, Lille qui arrive toujours pas à décoller, alors qu'il pouvait faire un bon coup, hein, parce que battre à domicile Rennes, c'est pas non plus donné forcément à tout le monde. Donc voilà, Lille qui piétine, et c'est bien dommage, quoi. Parce que moi, j'aime bien, quand même, dans cette équipe de Lille, là, il y a quand même pas mal de bons petits joueurs, aller voir piétiner de la sorte. Bon, ça fait toujours un petit peu mal au cœur.
Oui.
Bon, allez, oui. Les deux erreurs d'arbitrage dont je te parlais, donc il y a eu ce but refusé, je viens de voir les images assez, bon, voilà, incompréhensibles. Puis il y a eu un penalty sur un René, il me semble, c'est Marvaux. L'arbitre simulation et lui met un jaune, bon, voilà. C'est pas mal aussi dans le genre. Mais ouais, au-delà de ça, le match, pas très grosse intensité, pas beaucoup de rythme. Mais par contre, deuxième mi-temps extraordinaire de Hazard, hein, qui a complètement coupé l'arrière droit de Rennes. Parce que c'était pas l'arrière-droit habituel, là, l'américain, c'était un autre. Enfin bref, il s'est vraiment régalé, il offre un caviar, je crois que c'est à Dumont, qui croque, qui la met à côté, on sait pas trop comment. Vraiment, hein. Quel joueur ce Hazard.
Ah, oui, excellent joueur, Eden Hazard, le belge
non,
de Lille.
Non, il est pas, ah ben je te rassure, donc c'est Eden Hazard.
Comment?
Je sais pas, je t'ai senti vouloir prononcer un peu Hazard comme ça. Oui, Eden Hazard.
C'est Dan qui m'a un peu motivé. Voilà, pour le prononcer à la juive. Non, je plaisante. Donc, parce que je me suis trompé, il me semble que j'ai prononcé un espèce de H avant le Eden. C'est ça?
Voilà, c'est ça. Non, c'était avant le Hazard, mais c'est pas grave.
Ok. Bref. Voilà. Donc voilà pour ce match. Par ce match Lille-Rennes, pas grand chose à dire. Il me semble que ça n'a pas déchaîné les foules. Même pas de ch'ti pour nous faire son petit résumé du match, dommage. Voilà. Oui, Hugo.
Bah, je trouve que Rennes marque un peu le pas en ce début de saison. Ils ont perdu contre Auxerre, ils font pas mal de matchs nuls, je trouve. Ils en ont déjà fait 4. On a annoncé Rennes comme l'équipe là, celle qui allait défier les gros, celle qui allait s'incruster dans le Big Four à la française. Puis au final, on s'aperçoit que c'est une équipe qui est relativement assez régulière. Je dirais assez régulière malgré qu'ils sont de très bons joueurs.
Mmh. Ouais, faut souligner que ce soir, en début de saison, leur force, c'était leur paire d'attaquants, là, Bangoura et Diane. Bangoura qui est complètement méconnaissable depuis quelques matchs. On le voit plus du tout sur le terrain. Et Diane était absent ce soir. Donc, ça pèse aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont en baisse de régime en ce moment. Hein. Même si So a fait un très très beau match. Comment il s'appelle?
C'est pas Moussa Sow.
Moussa Sow, d'accord.
C'est ça, Moussa.
Je retiendrai pour la prochaine fois. Moussa Sow.
On va pas se moquer, hein. C'est très, un peu très tard. Bon, c'était ironique.
Non, il est.
Ah non, d'accord.
Pourquoi ironique?
Non, je sais pas. Tu le disais d'un air. Comment?
Intéressant.
Voilà, par rapport à Moussa Sow, c'est moi ou j'ai entendu la voix de Dan? Non. Alors, j'ai entendu des voix. Donc, vas-y, Ashrémy, tu t'excites, là. Vous voyez pas la converse écrite. Heureusement pour vous, ça fait 3 pages de X de Bourguignon. Donc, vas-y. Vas-y,
Ashrémy. Ouais, une bonne fois pour toutes, faut arrêter de dire Auxerre. Et plutôt dire Auxerre.
C'est vrai.
Voilà.
Par exemple,
Auxerre, Hasard. Tu fais la totale.
Non, c'est pas moi. J'ai dit Auxerre.
Auxerre.
Alors, Auxerre. Ah non, je dis Auxerre, je suis civilisé quand même. Hey. Je ne suis pas bourguignon, voilà. Donc on va pouvoir...
Auxerre à la juive, ça donne quoi?
Comment?
Faut demander... Faut demander à Tan. Voilà.
Enfin, je sais pas, au pire, je sais pas, par exemple, je sais pas si tu dis Bruxelles. Moi, je préfère dire Bruxelles plutôt que Bruxelles, tu vois, ça le fait pas.
Et pourquoi ça le fait pas, en fait?
Bah, je sais pas. Hein.
Et pourquoi on n'arrêterait pas? Donc voilà, qu'on est un peu en sujet là par rapport à.
On non, c'est parce que je vous apprends juste à parler français, c'est tout.
Ah mais oui, mais c'est heureusement que t'es là. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, hein? Les Bourguignons, comment ils feraient pour être un peu civilisés, n'est-ce pas, Arnaud? Voilà, donc on va pouvoir.
Ah, mais en fait, c'est le dialecte villageois, donc il faut se mettre à la page.
Le patois, exactement. Donc on va pouvoir passer. Bah c'est fini, on n'a rien à dire, on n'a rien d'autre à dire à part que petit clin d'œil à la Serie A et la superbe victoire de l'Inter au Genoa, 5-0, bien joué hein, Arnaud, donc, superbe soirée pour toi. Et donc on va pouvoir rendre l'antenne. C'était la première émission de Dark Rafale. Oui, Hugo.
Le 0-0 de Barcelone, il faut le souligner celui-là.
Ah aussi, donc je disais que c'était la première émission de Dark Rafale, merci Dark.
De rien, puis voilà, c'était la prochaine pays. Fois.
Ah ben si on revient quand tu veux. Yak aussi, bon tu en avais déjà fait une, mais pareil. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette émission?
Oh bah à part l'accent juif, sympa.
D'accord, d'accord. Et le beau, c'est un beau projet tout de même, tu trouves pas?
Ah ouais, tout à fait. Super, bon, voilà. L'animateur est un petit peu à changer, mais bon.
Ah oui, tu trouves aussi.
Enfin une remarque constructive, elle a mis du temps.
Je suis venu pour ça.
C'est bien.
Donc voilà. Et plus sérieusement, donc super. Merci Yak. Reviens comme tu veux, pareil Dark. Il y avait aussi Fabien.
Ouais.
Salut Fabien. Moi. Il y avait Hugo. Oui. Et
il y avait Hugo.
Le meilleur pour la fin. Ashrémy.
Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, tu vois.
Voilà. Et donc, je vous rappelle l'heure, il est 1:25 sur Génération Soccers.
Et les copains du foot sont toujours en train de plagier Calcio Mio.
Voilà, un petit coucou à nos copains de calciomio.fr et non pas .it comme certains beaucoup se trompent. Et on va pouvoir rendre l'antenne. 1:25.
Monde.
Non, c'est soirée techno.